Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon matin, bienvenue au podcast de Quiz Tonic. Je m'appelle Olivier Beauchemin.
Et je suis Francis Juteau.
Et nous serons vos deux animateurs du fameux podcast de Quiz Tonic. Francis, c'est officiellement vrai, là, ça existe, ce podcast-là.
Oui, bienvenue parmi nous, troisième épisode. Ça fait longtemps qu'on chérit ce petit rêve-là, et c'est enfin le cas, ça se passe.
Oui, absolument. Merci de nous suivre, allez liker la page Facebook de Quiz Tonic. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes. Sinon, allez jeter un coup d'œil à quiztonic.ca aussi, si vous êtes intéressé à aller voir des quiz dans les bars en réel aussi. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des critiques, des commentaires. On fait ça vraiment par grand plaisir, mais aussi pour vous. Donc, si vous avez des idées thématiques pour le podcast, n'hésitez pas à nous écrire.
On a hâte de voir vos commentaires parce que là, c'est le troisième qu'on enregistre avant même que tout ça soit lancé. Donc,
ouais.
Commentez généreusement donc, pour nous dire c'est-tu trop facile, c'est-tu trop dur,
c'est-tu plate à mort.
Des suggestions. Ben là, j'espère que non. Au nombre d'heures qu'on met là-dessus pour un épisode, quand même.
Hey, quand même pas mal. On est rendu au troisième podcast. Chacun d'entre nous avons animé une édition déjà. Francis, tu reprends la balle au bon ici là, et tu vas animer ce troisième épisode.
Alors, commençons avec les règlements. Dans le fond, c'est 20 questions qui vont en ordre à peu près croissant de difficulté, qui vont pasticher le système scolaire québécois. Donc, de la maternelle jusqu'au doctorat. On va vous expliquer en cours de route c'est quoi la nature des questions qui vont être posées. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'un élève du niveau correspondant pourrait répondre à la question.
Ouais.
C'est juste qu'on monte d'un degré de difficulté. Et ça veut pas dire non plus qu'on veut faire l'apologie des diplômes. Hein? C'est pas parce qu'on a un diplôme qu'on est quelqu'un nécessairement. C'était juste drôle pour nous d'y aller avec ce système-là.
Exactement. Ceci dit, Francis, avoue que t'étais fier d'avoir la maîtrise en Walt Disney. Quoique t'as pas eu la maîtrise officiellement, t'as pas réussi ton bac, mais je dis ça, je dirais.
C'est ça. Non, je le prends pas. J'ai passé mon cégep, c'est tout.
Exactement.
Le thème d'aujourd'hui, Olivier, donc on a décidé d'y aller avec une thématique un peu générale qu'on a fait souvent dans les bars quand même. Alors, ce serait thématique... voyage.
Ah, l'exploration. La liberté, quoi. Le rêve.
Le rêve. Et Olivier, moi et toi, on a déjà voyagé ensemble, hein?
Exactement.
On en a déjà parlé.
On en a parlé pendant qu'on faisait les quiz de pandémie. Francis et moi, on est partis au Royaume-Uni. On s'est croisés au Royaume-Uni en Écosse, en fait. C'était pas nécessairement tant planifié
non,
notre
pas
affaire.
Vraiment.
Puis on a été faire l'île de Skye ensemble.
Ouais, road trip. Et on s'est ramassé au beau milieu de l'île de Skye, dans un pub, à faire un quiz ensemble avant même que la compagnie soit créée.
C'est fou, hein?
Et on s'est fait planter, bien solide.
Hey, bien solide. Rapidement, avant de commencer le podcast, là, en Angleterre, la majorité du temps, c'est un gars derrière le bar qui crie les questions. Il n'y a pas nécessairement une si grosse organisation, quoique ça dépend où tu vas jouer, j'imagine. Là. Mais ça vient de là et c'était tellement autoréférentiel. C'était super tough. On espère que le quiz de ce soir soit plus accessible, mettons.
C'était avec un gros accent écossais en plus que je vais t'épargner
oui,
ce soir.
Absolument.
Alors, prédiction, Olivier, pour les voyages?
Bon, voyage. J'aime beaucoup voyager, mais je peux pas dire nécessairement que c'est genre ma passion, là. Je me définis pas par le voyage dans la vie. Ceci étant dit, je pense que je suis quand même popé en voyage, d'après moi. Ça devrait être quand même correct. Je veux dire secondaire. Je devrais faire mon secondaire. Si je suis capable de passer mon cégep, je serais content. Mais ça va être ça mes ambitions pour aujourd'hui.
Parfait. Alors, allons-y dès maintenant avec le primaire. Alors, on commence avec la question maternelle qui se veut une question un peu nounoune généralement.
Oui.
Nounoun,
j'espère l'avoir.
Je le souhaite. Alors, les Québécois adorent aller baragouiner l'espagnol à Cuba. On connaît des classiques comme cerveza, playa, etc. Mais que signifie cette phrase touristique importante suivante? Olivier Beauchemin. Besame mucho el tibia.
Besame mucho el tibia.
Besame mucho el tibia.
C'est une question maternelle que quelqu'un pourrait ne pas réussir.
Je te souhaite de l'avoir.
J'avoue que c'est quand même... ça devrait se trouver. Je vais y aller avec les racines latines. Olivier Beauchemin, embrasse-moi beaucoup le tibia.
Tu connais ton espagnol, comme tout le monde à la maternelle.
J'aime ça. C'est une question langue à cause de voyage, mais j'avoue que le clin d'œil aux gens qui vont dans le sud est très
bon. Ben oui, parce qu'il faut savoir parler d'autres langues.
Ouais.
Ça, c'est, en plus, c'est une expression qui est vraiment utile en voyage.
Oui, donc, absolument.
S'embrasser le tibia. Et en plus, l'espagnol, ce serait la deuxième langue maternelle la plus parlée au monde, apparemment. C'est quoi la première?
La langue maternelle la plus parlée au monde? C'est une bonne question. Maternelle? Oh, je dirais probablement le mandarin.
Tout à fait.
Yeah.
Avec près du double, donc, de l'espagnol.
Ah oui, quand
près
même. Du double, maternelle, j'avoue que c'est ça. Eh, hey, mais c'est cool, j'ai déjà passé ma question primaire première année aussi, c'est ça que tu viens de me donner
non,
là?
Non, t'as passé ta question maternelle sur les langues maternelles.
Voilà.
OK. Alors, on enchaîne pour la première année jusqu'à la troisième année avec trois questions de type vrai ou faux. Première année. Alors, c'est quelque chose que... Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'était connu, mais moi, je savais pas.
Okay.
Moi, je l'aurais peut-être raté ou pas, parce que...
En première année. Tu y vas, difficile, là.
Parce que, on va voir si je t'ai induit en erreur ou pas. Le fameux guide Michelin, qui accorde notamment des notes au restaurant, a été lancé par la même compagnie Michelin qui vend des pneus. Vrai ou faux?
Et tu vois, quand même, c'est une bonne question, ça. Parce qu'effectivement, le monde peut se demander, le livre de records Guinness, c'est-tu la compagnie Guinness qui fait ça aussi? Tu sais, on le sait pas. C'est des grosses campagnes marketing, mais c'est-tu le cas?
C'est même pas, faudrait vérifier. Mais...
Alors, j'ai la réponse aux deux questions, je pense. Okay. C'est bel et bien la compagnie Michelin et la compagnie Guinness qui ont parti ces produits-là. Yeah!
Wow, mais honnêtement, tu m'en diras plus sur Guinness parce que ça, j'en ai aucune idée.
C'est bel et bien la brasse. Si je me trompe pas, lorsque
c'est la bière Guinness.
C'est la bière Guinness.
Fait des records Guinness.
Grosse campagne marketing. Si je me trompe pas, là, c'est une entreprise complètement indépendante, mais qui ont initié le projet. Il me semble que oui.
Ils ont pris François Legault au pied de la lettre, se sont réinventés.
Ouais. J'aime ça.
Oui, après, au départ, c'était offert avec l'achat de pneus, entre autres, dans une stratégie de développer le tourisme automobile et cycliste, même si ça a pris plusieurs années avant que les restaurants rentrent là-dedans. Mais écoute, ça, c'est complètement fou. Okay. Quand, tu sais, il y avait énormément de cartes routières dans le guide Michelin,
ouais.
Évidemment. Et quand les Allemands vont envahir la France en 1940, ils vont être équipés de guides Michelin.
Mais voyons donc.
Oui. Ils vont être équipés de guides Michelin pour savoir comment mieux l'envahir et quel chemin emprunter.
Et peut-être quelle place où aller manger, là, tu sais, mettons,
oui,
entre deux attaques.
Mais il faut croire que dans les cartes, il y avait le petit trou, c'est à l'imagino.
Ben fait, voyons donc. Ah ouais, c'est quand même malade,
hein?
Ça.
Incroyable.
Ah, je suis content d'avoir pris ça.
J'adore ce petit fait. Alors bravo, félicitations, je sais pas si je l'aurais eu. C'est gênant. Alors, deuxième question. Vrai ou faux? Lors d'un vol aérien, le pilote et le copilote n'ont généralement pas le droit de manger le même repas. Si l'un choisit les pâtes, l'autre doit choisir le poulet. Vrai ou faux?
On est en deuxième année, là! Il me semble que j'aurais inversé ta question maternelle deuxième année. J'étais stressé en maternelle, là. Je t'avoue que... Ben, en tout cas, si la réponse que je te donne là n'est pas la bonne, je sais pas où on s'en va. Alors, c'est faux. Ils peuvent manger la même affaire, Francis.
Hein? Alors, non, c'était vrai. Pour éviter, donc, en fait, les intoxications alimentaires, le pilote et le copilote n'ont pas le droit de manger le même repas et n'ont pas le droit de manger le même repas non plus que les passagers. Donc, c'est des repas complètement différents qu'ils mangent.
Voyons donc!
Puis ça leur a notamment sauvé le cul en 75 quand 200 passagers ont pogné à diarrhée en même temps dans un vol de Japan Airlines. Et puis, donc, ça a fait en sorte qu'eux, ils n'ont pas été malades puis ils ont pu éviter une catastrophe.
Hey, mon Dieu Seigneur! C'est sûr que j'ai eu l'air d'un pur crétin à être dans ce podcast-là.
Non, mais
c'est une maudite bonne explication. Je suis très content.
C'est intéressant, mais honnêtement, comparé au pilote, j'ai monté le degré de difficulté un peu. Fait qu'on va voir si c'est trop difficile.
Non, mais c'est bien correct. C'est parfait. J'aimais ça. C'est une très bonne question, vrai ou faux.
Parfait. Excellent. On poursuit.
Yes.
Troisième année. Alors, la prochaine question concerne le décalage horaire,
ouais.
Le jet lag. Selon la NASA, ainsi qu'une étude de l'Université de Maryland en 2016, il est plus facile de récupérer lorsqu'on voyage d'ouest en est. Vrai ou faux?
Lorsqu'on voyage d'ouest en est, il est plus facile de récupérer. Donc, d'ouest en est.
De Montréal à Paris serait plus facile à récupérer que de Paris à Montréal.
Montréal à Paris que de Paris à Montréal. Montréal à Paris que de Paris à Montréal. J'aurais tendance à dire vrai. Oh my God! Hey, deux vrais ou faux, pas bon déjà.
Ça se corse.
Oh, ça se corse, mon chum.
C'est l'inverse. Même moi, en voyageant, j'ai tout le temps eu cette impression-là. Je sais pas si toi, t'as eu ça ou pas, visiblement pas.
Ah non.
Mais il faudrait 6 jours pour se remettre d'un vol Paris-New York, puis 2 jours de plus pour un vol en sens inverse.
Ah oui, OK.
Puis ça s'expliquerait, écoute, je vais donner des termes que je comprends à peine, par 20 000 cellules qui sont situées dans l'hypothalamus qui suivent un rythme circadien d'environ 24 heures et demie au lieu de 24 heures. Donc, quand la journée s'allonge, c'est plus simple pour le corps vu qu'il est déjà sur un cycle supérieur à 24 heures.
Ah oui, OK. OK.
Voilà.
Hey, ça va mal, hein? Moi, j'ai juste j'ai deux bonnes réponses sur quatre en ce moment. J'ai pas le choix d'avoir mes trois autres pour avoir le primaire en voyage.
Oui, tout à fait. Ça se casse, hein?
Ça se casse pas mal.
Alors, quatrième année, donc 4, 5 et 6, ce sont des choix de réponses.
Ouais.
Donc, question. Un des monuments les plus visités aux États-Unis et au monde est le Lincoln Memorial. Donc, le monument en l'honneur d'Abraham Lincoln. Dans quelle ville américaine peut-on le retrouver?
Lincoln Memorial.
En A, Boston. En B, Washington. En C, Plattsburgh, à côté du kiosque à Churros.
J'aime ça. On est... Mais là, tu sais, j'aimerais vraiment ça que ça soit pas Plattsburgh, le kiosque à Churros. Parce que là, je me sentirais vraiment épais, tu sais. J'aurais l'impression de mériter de pas avoir mon école primaire. Eh bien, je vais aller avec Washington. Je pense que j'aurais eu 100 choix de réponse, selon moi. Yes, sir.
Tout à fait, bien joué. Donc, c'est un grand bâtiment de marbre blanc qui ressemble à une espèce de temple grec.
Ouais.
Je sais pas si t'es déjà allé.
Non, mais pas à Washington.
Moi non plus. Avec une statue monumentale d'Abraham qui est assis. Et il y a 36 colonnes extérieures qui représentent les 36 États donc, qu'il y avait au moment de son décès.
Ah! Ouais. Okay.
C'est là, entre autres, qu'il y a eu le fameux speech « I have a dream ».
Ah! Wow! Au Lincoln Memorial.
Cinquième année. Qui a été le premier explorateur, du moins le premier reconnu par les livres d'histoire, à avoir effectué une circumnavigation? Donc ici, par circumnavigation, on entend faire le tour du monde.
Ouais.
Alors, en A, Fernand de Magellan, en A. En B, Marco Polo. Ou en C, Terry Fox avec des flotteurs.
Terry Fox avec des flotteurs, c'est vraiment très bon. Je tiens à dire la chose suivante. Aucune de tes réponses n'est bonne. Tu vas peut-être me donner cette spécification-là.
J'ai la spécification. Par la
suite. J'adore ça. Mais je vais quand même y aller avec la réponse typique de Fernand Magellan. Puis je vais aller avec ton complément d'information. C'est Sébastien Elcano qui a réussi à terminer le voyage, effectivement. Magellan étant décédé pendant son tour du monde.
Oh, je vais même te renchérir parce que ce ne serait pas celui que tu as dit. Mais en fait, j'ai dit le premier reconnu par les livres d'histoire.
Ouais.
C'est bien
Magellan
qui était reconnu. Bon.
Ouais.
Mais donc Magellan va partir de l'Europe, va descendre en dessous de l'Argentine, va se rendre aux Philippines, va essayer de christianiser donc les Philippins.
Ouais.
Tellement qu'il va s'obstiner à ça, il va se faire tuer par les Philippins, donc en guise de remerciement. Et son équipage va compléter, comme tu l'as dit, te nommer son second en chef. Mais ce serait même pas son second en chef, c'est que le premier, parce qu'à bord du navire, il y avait un esclave philippin, qui était aussi le traducteur, qui avait d'abord été vendu en Espagne.
Oh my God!
Et qui aurait donc été le premier de facto à faire le tour du monde. Ce serait donc Enrique de Malacca.
J'adore ça! C'est très bon fun fact, ça! Hein? Merci, Francis!
Oui, hein? Voilà. Et c'est ça.
Hey, la pression, mon ami, en ce moment que j'ai, parce que je tiens à le répéter, mais on est rendu ici même au moment où il faut que je réussisse mon primaire avec cette question 6.
Ben oui, écoute, comme tantôt, j'ai été acculé au pied du mur, et t'es là. Sixième année. Dernière question. Environ. J'ai mis mon accent tonique à mauvaise place. Environ 150 000 pèlerins empruntent chaque année le chemin de Compostelle qui se rend jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne.
Ouais.
Mais coudon, Oli, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Jacques-de-Compostelle?
Oh my God!
En A, le tombeau de Jacques de Zébédée, un des 12 apôtres. En B, une grotte où la Vierge Marie serait apparue plusieurs fois au 19e siècle. Ou en C, l'ancien kiosque de churros de Plattsburgh.
OK. Une grotte où Marie... Ben c'est ça entre les deux. Une grotte où Marie serait apparue la première fois au 19e siècle. On dirait en plus, c'est clair, mais ça se pourrait, tu sais. C'est juste, il me semble que ça serait pas ça parce que c'est un peu trop... 19e siècle, quoi que ça aurait pu être à ce moment-là que Saint-Jacques de Compostelle arriverait. Je vais dire tombe dans les apôtres. Yeah! Ouf,
et
ça a passé proche.
Il passe son primaire, mesdames, messieurs.
Ouh!
Félicitations.
Merci beaucoup.
Alors, la grotte de la Vierge Marie, c'était pour t'induire en erreur parce que ça existe pour vrai. C'est le pèlerinage de Lourdes.
OK.
De Lourdes, donc en France.
Je me suis dit que ça serait pas le pèlerinage le plus connu du monde pour quelque chose d'aussi bizarre. Tu sais, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? Ça aurait pu.
Mais écoute, c'est le pèlerinage de Compostelle. Ça a été instauré après la découverte des reliques de Jacques de Zébédée au début du 9e siècle. Mais c'est après la prise de Grenade en 1492 que le pape va officiellement le déclarer un des trois grands pèlerinages de la chrétienté,
okay,
avec Jérusalem et Rome. Okay. Mais on s'entend pour dire qu'anyway, la majorité des pèlerins qui vont faire Compostelle, c'est surtout dans un but méditatif.
Ouais.
Ça ou pour fuir Revenu Québec.
Pour fuir Revenu Québec, c'est vrai que ça se pourrait.
Ça se pourrait. Alors, fin du primaire, Olivier, félicitations.
Oh là là. Mais je suis content. Je suis content d'avoir appris que le pilote et le copilote ne mangent pas la même chose. C'est une très bonne chose à avoir appris.
Je trouvais que c'était des informations intéressantes. Merci. Début du secondaire. Alors, secondaire 1. De secondaire 1 jusqu'à secondaire 5, on a donc un total de 5 questions. Ce sont des questions à réponse classique, à réponse simple. Ça ne veut pas dire que les réponses vont être simples pour autant. Et tu dois en réussir 3 sur 5 pour passer ton secondaire.
Génial.
Alors, secondaire 1. Première question. En tant que Canadien et loyaux sujet de la reine, Olivier, ou du roi, pardon.
Hein? Du roi, ben oui, je faut dire. Voilà. Hein, le temps qu'on l'a, Charles, faudrait qu'on va en profiter. Hein, là.
Alors, on peut être amené à aller visiter la mère patrie de United Kingdom,
ouais.
Dont la livre sterling est généralement dans le top 5 des monnaies les plus fortes au monde.
Ouais.
À plus ou moins 30 sous canadiens. En date d'aujourd'hui, donc du 21 février 2024, une livre sterling, ça vaut combien de dollars canadiens?
Oh, à plus ou moins 30 sous.
Ouais.
C'est une bonne question, ça, quand même. C'est une bonne question. Plus ou moins 30 sous, c'est quand même une bonne marge de manœuvre, ça, c'est dit, j'ai l'impression.
C'est pour ça que je l'ai laissé à cette marge-là.
C'est généreux de ta part, je trouve. Bon, je vais aller avec ma réponse. Dans mon souvenir, quand, justement, on a été au Royaume-Uni, 1 dollar canadien équivalait à environ 1 dollar... c'est-à-dire, 1 dollar canadien équivalait... 1,70 canadien équivalait à une livre. Fait que 1 dollar canadien... Il faut que je donne la livre sterling ou au canadien? Excuse-moi.
On cherche la réponse plus haut que... Donc, une livre sterling, donc combien...
Combien en canadien? C'est ça. Moi, je me suis mélangé avec l'erreur. Je vais dire 1,75$. Yeah!
Écoute, t'es pile dessus tantôt dans ta réflexion. C'est 1,70$, okay. Donc 1,71$ environ, ça varie. Okay. Donc j'aurais pu accepter de 1,40$ jusqu'à 2$. Ça, c'est assez stable depuis bien des années. Puis en comparaison, ben 1€, ça donne environ 1,45$.
Ouais.
1$ américain, 1,35$.
Ouais, c'est ça.
Puis la monnaie la plus forte au monde, c'est le dinar koweïtien.
OK.
Combien, donc, un dinar koweïtien, ça vaut, pour le fun?
Ah ouais, le dinar koweïtien, ça vaut combien? En canadien, tu veux dire?
Ouais.
Je veux dire 500$ canadien.
Non, c'est 4,38$.
Ah!
Hein?
Ah, j'aurais cru que c'était vraiment plus élevé un peu. Comme,
Non.
OK, 4,38$, c'est bon.
Fait que c'est environ 2 dinars pour un trio Big Mac.
Ah, hein? C'est bon, deux petits dinars.
OK, alors bravo pour ta question secondaire 1. Secondaire 2. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier les road trips, hein?
Oui.
Qui sont mes voyages préférés, sans doute.
On aime ça.
Alors, je veux que tu résous cette équation autoroutière.
Oui.
Je veux que tu additionnes, d'une part, l'ancienne route américaine mythique qui reliait Chicago à Santa Monica jusqu'en 1985.
Ouais.
Et d'autre part, l'autoroute qui relie Montréal à Québec, mais dont le trajet entre Montréal et Québec fait partie de la transcanadienne.
Okay.
Donc, l'autoroute qui traverse le Canada au complet.
OK, c'est bon, Francis. J'aime ça, tes questions. Ça se trouve quand même, mais c'est pas facile, honnêtement. C'est stressant. En plus, justement, je suis pas un si grand connaisseur de voyage et surtout pas un grand connaisseur de route. Bon, je vais partir du fait que, d'après moi, dans mon souvenir, c'est la route 66 qui est cette route mythique-là aux États-Unis. C'est vraiment juste parce que il me semble que je vois un panneau de signalisation de tout ça. Et dans ma tête, c'est la 40 qui est dans celle qui est le plus au nord, dans le fond, qui est Québec-Montréal. Je vais dire 106 pour ma réponse finale. Oh non!
Alors, on cherchait 86.
86.
Parce que ça jouait entre la 20 et la 40. Mais la 40, donc le tronçon entre Montréal et Québec, ne fait pas partie de la transcanadienne.
Ah, OK.
C'est la 20 qui fait partie.
Voilà.
Pour la transcanadienne, il y a une portion de la 40 qui est à l'ouest de Montréal.
OK.
Mais entre autres, c'est pour ça que la 40, mettons, est surnommée l'autoroute Félix Leclerc. Et on entend des fois dire des trucs comme que les nationalistes prennent l'autoroute 40 pour se rendre à Québec.
Et non, pas la
20. Les fédéralistes prennent la 20 vu qu'elle fait partie de la transcanadienne.
Bon, quand même. Ah, mais écoute, j'avais une chance sur deux.
Une chance sur deux, ben oui. 66, ben oui, la route 66, c'est bon. Peut-être la route américaine la plus connue.
La classique.
La classique. Alors, on se poursuit.
Oui.
Avec question. Si on est trois. Le Canada a des ambassades et des consulats dans plus de 260 villes dans le monde.
Ouais.
Je veux savoir, uniquement d'un point de vue géographique, quelle est la différence entre une ambassade et un consulat? Et j'ai un indice supplémentaire si tu en as besoin.
Ouais.
Par exemple, aux États-Unis, le Canada possède 13 consulats et une ambassade.
OK, la différence géographique entre un consulat ainsi qu'une ambassade. Entre une ambassade et un consulat. Oh, c'est une bonne question. C'est difficile, ça.
Alors, l'indice devrait aider quand même. 13 consulats canadiens aux États-Unis et une seule ambassade.
Ben, c'est-à-dire que je vais aller que l'ambassade représente le Canada dans le pays en tant que tel au complet, donc un par pays. Puis 13, je vais dire que c'est parce que c'est un consulat, c'est pour une province ou un État.
Ah, ce serait dur. J'ai de la misère à dire. J'aurais pas le choix de refuser.
Ah oui, OK.
En fait, l'ambassade doit toujours être dans la capitale du pays.
D'accord.
Donc, t'avais en partie raison sur les consulats que ça peut être n'importe où ailleurs, mais l'ambassade doit spécifiquement géographiquement...
Ah, c'est ça que tu dis, d'un point de vue géographique, OK, je comprends. Oui, la capitale comme telle. OK, parfait, c'est bon, je prends à assumer ça.
Puis pour les rôles en tant que tel, ben, l'ambassade, t'avais raison, ça représente le Canada en termes de mission diplomatique, tandis que le consulat, c'est plus le day-to-day affaire, là, donc pour les Canadiens et Canadiennes qui sont en voyage.
Ah, je comprends. Ils peuvent aller dans n'importe quel consulat pour se faire aider.
Exact.
OK.
Ouais, exact. Mais j'hésitais à te le laisser là.
Ah, non, c'est correct, faut être honnête dans la vie.
OK, parfait. Alors, secondaire 4.
Oui.
À plus ou moins 3 ans.
Oui.
En quelle année la pilote Amelia Earhart est-elle disparue en tentant de devenir la première pilote à faire le tour du monde en avion? Indice. C'est 10 ans pile après que Charles Lindbergh soit devenu le premier à traverser l'Atlantique en solo et sans escale. Donc, de New York à Paris.
De New York à Paris.
Je répète.
Ouais.
À plus ou moins 3 ans. En quelle année la pilote Amelia Earhart est-elle disparue en tentant de devenir la première pilote à faire le tour du monde en avion? Indice, c'est 10 ans pile après que Charles Lindbergh soit devenu le premier à traverser l'Atlantique en solo et sans escale de New York à Paris.
Oh là 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 là, c'est pas facile tes questions, hein? C'est pas facile, 10 ans pile après... la traversée, je vais dire... je vais donner une date. Je vais dire 1924. Eh bien, voici un secondaire échoué.
Secondaire échoué. Alors, on cherchait 1937.
Okay.
En fait, 24 aurait été bon si on cherchait l'année de Charles Lindbergh.
Ah oui, OK.
C'était en 1927.
D'accord.
Donc, Lindbergh a traversé en solo en 27. En 28, Earhart, elle a traversé en solo, comme passagère.
Comme passagère.
Ensuite, en 32, en solo. Et donc, devenue la première personne à traverser deux fois.
Ouais.
Et ensuite, elle est disparue en 1937 avec son navigateur Fred Noonan. Et j'ai lu en actualité hier qu'il aurait retrouvé l'épave pour la première fois. Et ils vont envoyer donc un voyage pour essayer de retrouver si c'est bel et bien l'avion.
De Amelia Earhart.
D'Amelia Earhart.
Ah! Ben écoute, c'est correct, hein? C'est correct, je suis visiblement pas un si grand fan de voyage.
Ben visiblement, j'ai corsé ça.
Ton quiz est corsé, je pense. En même temps, je me suis dit, c'est correct, hein? Faut apprendre.
Parfait. Alors, dernière question du secondaire.
Ouais.
Alors, question à réponse simple. Il existe à chaque année le classement Henley, celui des passeports les plus puissants au monde.
OK.
Donc, ceux qui permettent de voyager dans le plus d'États sans visa particulier. Quel pays asiatique occupe le tout premier rang depuis 2018, parfois seul et parfois ex aequo avec Singapour, en donnant accès à 194 pays et États.
Pour y aller?
Non, pour voyager partout.
Oui, c'est ça, OK, parfait.
Donc, les citoyens de ce pays-là et les citoyennes ont le passeport le plus puissant qui leur permet d'aller partout dans le monde. On cherche un pays asiatique.
OK. Des fois à égalité avec Singapour. OK. Pays qui leur permettent de voyager partout. Ben, je pense que j'ai ma réponse déjà. J'ai l'impression... Je vais y aller avec un pays qui a des très bonnes relations avec l'Occident en général, donc qui permettrait d'avoir accès à des pays de l'OTAN, par exemple, puis aussi qui est important parce qu'il est en Asie, je vais dire le Japon.
Voilà!
Pas si fou, le monsieur!
T'as pas réussi ton secondaire, mais t'as réussi ton secondaire 5 de peu.
Oui.
En fait, oui, c'est le Japon. Le Canada, lui, habituellement, il est 6-7e dans ce classement-là, et c'est quoi, avec beaucoup de monde.
Ouais.
Il donne accès à environ 5 pays de moins seulement que le Japon.
OK.
Des pays comme, mettons, l'Iran ou l'Inde, là, avec lesquels on a une relation plus compliquée là, depuis quelques années.
Ouais.
Le Japon, lui, peut aller pas mal partout ou presque, sauf, contrairement aux Canadiens, ne peut pas aller sans visa en Gambie ou au Burkina Faso.
Ah, on est-tu fiers d'être Canadien quand
pas,
même?
Je sais pas qu'est-ce que les Japonais ont fait aux Gambiens. Là, mais...
OK. Ah, mais c'est bon à savoir. Mais j'avoue que ça, je pense que c'est un guess qui pouvait commencer facilement. Écoute, c'est correct. Je vais quand même m'ouvrir une bouteille de champagne puis fêter la fin de mon secondaire.
Fin de secondaire. On s'en va cette fois-ci au cégep. On va voir si ça va mieux aller pour toi, Olivier.
Oui, absolument. On m'entend d'ailleurs en ce moment célébrer mon 2 sur 5 au secondaire.
Alors, première question. Donc, en fait, c'est trois questions du cégep qui, vu que le cégep représente un peu l'exploration de ce qu'on veut faire,
ouais,
on va aborder le sujet, donc des voyages, selon trois cours différents, trois angles différents. Alors, premier cours, donc tu dois en réussir 2 sur 3.
C'est ça j'allais dire, 2 sur 3 pour réussir 3. Avec des champs différents.
Tout à fait. Alors, thématique, les voyages selon le cours d'éducation physique. Mmh. Olivier, on cherche... Quelle célèbre équipe sportive, qui ne joue pourtant dans aucune ligue professionnelle, porte un nom associé au voyage, alors qu'ironiquement, elle n'a longtemps performé qu'aux États-Unis, et pire encore, qu'elle ne vient même pas de la ville indiquée dans son nom?
Attends, répète-moi ça?
Je répète.
Ouais.
Quelle célèbre équipe sportive, qui ne joue dans aucune ligue professionnelle, porte un nom associé au voyage, alors qu'ironiquement, elle n'a longtemps performé qu'aux États-Unis et pire encore, qu'elle ne vient même pas de la ville indiquée dans son nom.
Mmh. Une ligue professionnelle...
Elle ne joue dans aucune ligue.
Dans aucune... Une équipe qui joue dans aucune ligue.
Ouais.
Eh, hey, boy! Fait que c'est clairement pas un sport qui joue... Eh bien, Francis, je donne ma langue au chat.
Alors, pas de réponse. Même ma blonde a réussi à l'avoir.
Ah oui?
C'est pas le sport. C'est peut-être pour ça qu'elle a réussi à l'avoir aussi. On cherchait les Harlem Globetrotters.
Oh, tu vois, j'aurais... Non, j'aurais jamais vu ça.
Alors, c'est une équipe, tu connais pas du tout?
Non.
OK. C'est une équipe de basketball, mais qui font aussi des compétitions athlétiques en même temps, des espèces de show-off.
Ouais.
Puis ça a été fondé en 1927 à Chicago. C'était constitué de joueurs afro-américains qui n'avaient pas le droit de jouer dans la NBA, ce qui a fini par être permis en 1950.
OK.
Mais après, ils ont été reçus partout dans le monde. Plus tard, en 59, par Khrouchtchev à Moscou, par Jean-Paul II au Vatican, puis même en Corée du Nord en 2013, gracieuseté de Dennis Rodman, qui est un bon ami du dictateur en place.
Dennis Rodman est un ami du dictateur en place.
Oui.
Ça se peut pas.
Non, je sais. Ça, tu
mais ce gars-là là-dessus. Se peut pas en général.
Il
là.
Se peut pas, et honnêtement, non, il est très bien reçu en Corée du Nord. Là.
Ça n'a pas rapport. C'est ah fou. Ouais!
C'est fou, là.
Ben écoute, je suis content. Tant que, tu sais, moi, je vais faire un peu comme un bon étudiant de cégep, je vais m'asseoir en arrière, là, pour m'écouter tes fun facts.
On enchaîne avec la deuxième question.
Oui.
Alors, les voyages selon le cours de soins infirmiers.
Oui.
Alors, je veux parler de maladies de voyage. Je suis allé avec la maladie qui, dans mon cerveau, représente le plus la maladie de voyage.
OK.
Quelle maladie infectieuse, aussi surnommée fièvre des marais, est la parasitose la plus importante au monde et de façon encore plus importante en Afrique subsaharienne? On cherche une maladie infectieuse qui commence, indice, par la lettre M.
Mm-hmm. Ça, je pense que je serai en mesure de te le nommer, effectivement. Tu sais, ça a l'air de rien, là, mais j'ai fait mon cours d'infirmier, moi.
Oui,
pas du tout. Mais ben, écoute, je suis pas mal sûr. Surtout, en fait, si on parle d'une maladie relativement connue, là, tu m'as donné l'indice du M, ça aide. Je dirais la malaria.
Eh oui. Bonne réponse. J'aurais pu te donner aussi l'indice du P.
Oui.
Parce que c'est paludisme.
Ah, le paludisme, effectivement.
C'est la même chose.
T'as raison, ouais.
C'est propagé par la piqûre de certains moustiques et ça infecte les cellules hépatiques. Ça circule dans le sang en détruisant les globules rouges. Puis ça cause des centaines de milliers de décès à chaque année, dont la majorité sont malheureusement en Afrique.
Ouais. Et c'est fou parce que j'avais monté un quiz monde animal pour un quiz qu'on jouait dans les bars. Et j'avais appris que le moustique était l'animal le plus meurtrier pour l'homme. Et ça, évidemment, ici, on comprend donc, entre autres, à cause de ça, là, de la malaria, de la propagation de virus de ce type-là. Là. Donc, voilà.
Ouais,
ah, j'en sais des affaires, moi aussi!
Des trucs!
À défaut de réussir mon secondaire.
Et là, pour passer ton cégep,
ouais. Hein? Exact.
Donc, les voyages, selon le cours de génie électrique.
OK, oui!
Parce que, tu sais, on a tous déjà sacré de ne pas avoir amené le bon adaptateur.
Oui, absolument.
De l'autre côté. Et il y aura spécialement des choix de réponse.
OK.
Pour cela.
Parfait.
Alors, je veux savoir... Quel type de prise électrique a été créé en 1986 par la Commission électronique internationale dans le but de devenir la norme universelle?
Okay.
Et donc, c'est ça, j'y vais avec les choix de réponse. En A, le type A, qui est notamment utilisé en Amérique du Nord. En B, le type I, qui est notamment utilisé en Australie et en Chine. Ou en C, le type N, qui est notamment utilisé au Brésil et en Afrique du Sud. Et il n'y aura pas de blague de churros cette fois-ci.
OK, malheureusement.
Alors, c'est vraiment le but, c'est que tous les pays adoptent ce type de prise-là. Donc, A, Amérique du Nord. I, Australie et Chine. N, Brésil et Afrique du Sud.
Bonne question. En plus, j'ai posé cette question-là dans un quiz récemment, mais pas cette question-là, mais sur des prises électriques de voyage. J'ai l'impression que c'est une pogne l'Amérique du Nord, puis que c'est pas le cas. Je vais dire celle N, Australie et Chine.
I, c'est Australie et Chine, et I. N, c'est Brésil et Afrique.
Ah, excuse-moi, I, Australie et Chine.
T'aurais dû garder N.
Ah ouais, merde! Les maudites merdes.
N, c'est aussi ce qui aurait pu aider, c'est que c'est le plus récent. Donc, il n'y en a pas au-dessus de N. À chaque fois qu'il en crée une nouvelle, c'est une nouvelle type qui arrive. Puis c'était en 1986, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Avant, chaque pays concevait son propre modèle en se disant, anyway, il y a peu de voyages, mais quand les voyages se sont développés et les appareils électriques ont été de plus en plus portatifs, là, ça commençait à être un fouillis.
Ouais.
Et donc, le Brésil...
Ah, ça ne pourra pas jamais s'imposer dans aucun pays.
Ça va être compliqué, là, honnêtement. Mais écoute, le Brésil a adopté le type N en 2007, puis l'Afrique du Sud en 2015.
Ah oui, OK.
Donc, ça a pris quand même longtemps, depuis 1986. Et la Commission espère toujours... que tous les pays finissent par emboîter le pot pour avoir une seule norme.
Écoute, on a de la misère à avoir les mêmes prises pour Apple et Microsoft, t'imagines?
C'est ça, mais moi, on ne me fera pas renoncer à mes trois petits trous dans ma prise qui forment un bonhomme sourire.
Je te comprends. Eh bien, encore une fois, tu vois, ça a été difficile.
Ça a été plus laborieux.
Je vais célébrer tout seul.
Alors, on va voir si va te reprendre à l'université.
Ouais.
C'est parti.
Bienvenue à l'université. Ah oui, j'ai l'air content dans ce petit extrait sonore-là. Et pourtant, ma face dépite en ce moment.
Alors, première, comment ça fonctionne? Il y aura trois questions. Tu dois avoir la bonne réponse pour les trois questions, donc pour avoir ton baccalauréat.
Au niveau du bac comme tel.
Au niveau du bac en tant que tel, oui. Et puis, les deux premières questions donc, vont te fournir des réponses qui seront des indices pour la troisième question à ce moment-là. Ouais. C'est bon? Alors, on commence à l'instant. Première question. J'ai une petite préambule parce que je le trouvais cute.
Ouais.
Il existe plusieurs types de touristes dans le monde, comme le tourisme religieux, des touristes plus sombres, comme le tourisme sexuel, et d'autres plus atypiques, comme le tourisme Monopoly, qui visite par exemple les lieux du Monopoly.
Oui, c'est vrai. C'est une forme de tourisme.
Je veux savoir, pour quelle raison générale, donc pas besoin d'être précis, est-ce que des masses de touristes ont afflué dans les villes suivantes selon ces années? Je te donne trois années et trois villes. Il y a une même raison commune et générale qui explique pourquoi il y a des touristes qui sont allés dans ces villes-là.
OK.
Alors, Las Vegas, aux États-Unis, en 2024. Johannesburg, en Afrique du Sud, en 2010. Et Montréal, au Canada, en 1976.
Ça va bien. Ça, je devrais être capable de l'avoir. Parce que j'ai beau pas être quelqu'un qui connaît les Harlem Globetrotters, mais je peux très bien te dire qu'en 2024, c'était le Super Bowl à Las Vegas. En 2010, c'était les Jeux Olympiques en Afrique du Sud, si je ne me trompe pas.
La Coupe du Monde,
oui, c'est vrai. Waka Waka, oui, c'est ça. Et 76 les Jeux Olympiques au Québec.
Donc, le sport.
Le sport, ben oui, le sport.
Très bien joué. Donc, effectivement, tu as tout bien nommé là-dessus, qui est une des formes de tourisme les plus répandues au monde. Hein? Aller voir les événements sportifs majeurs.
Aller voir le sport. Donc, ça marche encore, ça.
Premier indice,
le sport.
Le sport.
OK.
Deuxième indice. On cherche un auteur né en 1907 qui a beaucoup écrit sur le voyage et dont les aventures de ses récits se sont notamment passées en URSS, en Chine et au Pérou, pour ne nommer que ceux-là, mais aussi dans des états fictifs comme San Teodoros, Nuevo Rico, la Bordurie et la Sildavie. Qui est-ce? Donc, on cherche un auteur né en 1907 qui a beaucoup écrit sur le voyage et dont les aventures de ses récits se sont passées en URSS, Chine, Pérou, San Teodoros, Nuevo Rico, Bordurie, Sildavie.
Sildavie, hein? Alors, je vais dire Georges Rémy, alias Hergé. Écoute, je l'ai eu à cause de la cils d'avis, selon moi.
Ah oui, hein, c'est vrai? C'est... Sans la cils d'avis, tu penses?
Sans la cils d'avis, je l'aurais pas eu. Dans ma tête, je me disais, ah, c'est qui a écrit Volkswagen Blues déjà? Ouais, tu sais, t'as beaucoup d'auteurs là, de road trip et de trucs de même.
J'ai failli mettre Congo et Tibet dans la question aussi. Ça aurait pu, peut-être donné le truc. C'est effectivement Hergé, dont le vrai nom était Georges Rémy, tu l'as dit.
Ouais.
Tu sais, hein, pourquoi Hergé?
Ouais, Hergé, c'est G et R inversé.
C'est là, ça. Donc, Georges Rémy, c'est les initiales G et R. Si t'es inverse, ça fait Hergé.
Hergé.
Donc, Tintin qui est allé partout. Donc, l'URSS, pays des Soviets, au Tibet, au Pérou, dans l'oreille cassée.
Ouais.
Puis, dans le cep de Tokar. Mettons, on est allé en bordurie dans des états inventés où il y avait des intrigues un peu plus politiques à ce moment-là.
Ouais.
Donc, deuxième indice, Hergé.
Hergé.
Premier indice, sport.
OK.
Troisième question. Quel aviateur français, lieutenant-pilote décédé durant la Première Guerre mondiale, a été le premier à traverser la Méditerranée en monoplan en 1913 et a aussi donné son nom à l'aéroport de l'île de la Réunion? Indice. Il a aussi donné son nom à quelque chose de majeur qui n'a aucun lien avec l'aviation.
Oh. Tu veux répéter la question?
Je répète. Ouais. Quel aviateur français, lieutenant-pilote décédé durant la Première Guerre mondiale, a été le premier à traverser la Méditerranée en monoplan en 1913 et a aussi donné son nom à l'aéroport de l'île de la Réunion? Indice, il a aussi donné son nom à quelque chose de majeur qui n'a aucun lien avec l'aviation. Et on se rappelle des deux indices qui sont sport et Hergé.
Ah, wow, j'adore. Je pense que je viens de l'avoir à cause de ton indice. Je vais essayer de garder ça en tête, de réfléchir, mais je suis pas mal sûr que je l'ai. Mais une chance que j'avais tes indices parce que je pense que sinon, je m'en serais jamais sorti. Sport, Hergé. Alors, j'ai vu là, ton insistance pour me dire pourquoi Georges Rémy et Hergé, c'est important. Alors, je me suis dit Hergé, le sport. Roland Garros?
Yeah! Il a eu son baccalauréat, mon gars.
J'ai 21 ans, je pouvais retourner à l'université et faire mon bac en voyage.
C'est fait. Est-ce que tu savais que Roland Garros était un aviateur?
Alors là, pas du tout.
Non, moi non plus. Moi non plus, pas du tout. J'ai appris ça, je me suis dit, il faut que je fasse une question là-dessus, honnêtement.
Ouais.
En fait, Roland Garros, c'était entre autres un athlète qui jouait beaucoup au rugby, donc au Stade français en 1906. Quand il est décédé, donc il est devenu une espèce de héros de guerre.
Ouais.
Et puis, un de ses meilleurs amis riches, qui s'appelait Émile Le Sieur, est devenu président du Stade français. Et il a exigé qu'on donne le nom de son ami au stade de tennis qu'on allait construire. Puis il a dit, s'il ne porte pas le nom de Roland Garros, je donne pas un euro.
Ah ouais, quand
en fait, il a pas dit euro parce que c'était... Donne pas un franc suisse.
Ah, mais c'est bon. Très bon fun fact. Puis bonne manière de le tousser. J'espère à la maison que vous avez réussi à l'avoir. C'était pas évident quand même, ceci
non.
dit. Là.
Non.
C'est corsé.
Mais t'as vu que si mon secondaire était corsé, j'étais comme, je vais essayer d'y aller corsé plus tard aussi. Mais là, tu te débrouilles bien quand
pour
même.
Pour l'instant, je suis content d'avoir... j'ai perdu mon secondaire et mon cégep, mais j'ai retrouvé la face au bac. Ce qui est le cas de bien du monde dans vie.
Oui, c'est fait. Mais comment c'est dit, genre secondaire, vu que c'est des réponses simples, ça risque des fois d'être plus dur que le cégep.
Ça peut être plus corsé, effectivement. Bon. Ouais.
Alors, pour la maîtrise, une seule question, mais qui va nécessiter plusieurs réponses, puis les critères de réussite sont les suivants. Alors, en fait, je veux continuer avec le sujet des noms d'aéroports.
Ouais.
Je te donne des noms d'aéroports et tu dois me donner la ville qui est associée à ce nom d'aéroport-là.
La ville comme telle, parfait.
Oui, la ville.
OK.
Alors, je vais t'en donner 9.
OK.
Tu dois en avoir 6.
6 sur 9 pour avoir la bonne réponse.
Oui.
Quand même, hein? C'est, ouais. C'est pas facile, ça, des villes, je vais t'avouer.
Tout à fait. Je vais toutes te les nommer, puis on va les repasser. Donc, tu vas pouvoir y réfléchir pendant que je les nomme.
C'est parfait.
C'est pas facile, honnêtement. Alors, 6 sur 9. Aéroport John F. Kennedy.
Mm-hmm.
Aéroport Jean Lesage.
Mm-hmm.
Aéroport Léonard de Vinci. Aéroport Lester B. Pearson.
Mm-hmm.
Aéroport Marco Polo. Aéroport Saint-Exupéry. Aéroport Indira Gandhi. Et aéroport Charles de Gaulle.
Wow! OK. En plus, pour vrai, c'est vraiment quelque chose à quoi je suis pas très bon, des noms d'aéroports. Je pense que particulièrement ça, je vais avoir de la misère à répondre correctement. Genre, je pense qu'il y a des affaires que je devrais savoir, mais que je saurais pas, là, puis que ça va être ça qui est ça.
J'en ai-tu nommé 9? 2, 3, 4, 5. Alors, on recommence en ordre.
On se lance.
John F. Kennedy.
John F. Kennedy, c'est à New York. OK. Ça, pour l'instant, ça va. Hey, écoute, pour vrai, je me suis demandé si je me trompais pas sur celle-là. Fait que, écoute, on va continuer.
Ça se poursuit avec Jean le Sage.
Jean le Sage. Mais ça, c'est spécial, Jean le Sage. Parce que, il me semble qu'il n'y a pas un aéroport comme ça à Montréal. Je le saurais, il me semble, Jean le Sage. Et puis peut-être, je le sais pas, puis c'est juste un aéroport de transport de marchandises, genre. Jean le Sage. Je vais dire Québec? Ouh, crème, j'ai failli dire Montréal.
Par la peau du cul, c'est bien et bien l'aéroport de Québec.
Ouais.
Léonard de Vinci.
Léonard de Vinci. Je vais dire Rome. OK, c'est pas si pire.
Lester B. Pearson.
Lester B. Pearson, je vais dire Toronto. Ouh, OK, c'est pas si pire.
Hein? Pour un gars qui pensait se planter, ben, 4 sur 4.
À date, ça va bien. Je me suis demandé, Lester B. Pearson, c'est-tu un président ou un premier ministre canadien?
Ça pourrait se casser.
Ouais, OK.
Marco Polo.
Marco Polo, c'est un marchand vénitien, je vais dire Venise.
5 sur 5.
OK, ça va pas si mal, finalement.
Celle-là, c'est lui que j'ai hésité si j'ai nommé dans les 9 tantôt ou je l'ai sauté. George H.W. Bush.
Non, tu l'as sauté, mais effectivement, c'est parfait. George H.W. Bush, je vais dire Dallas.
Belle essai, on cherchait Houston.
Houston. Je me disais Texas sûrement. Ouais, c'était dans cet endroit-là. Okay.
Saint-Exupéry, qui était à la fois auteur et aviateur.
Auteur et aviateur, effectivement. Saint-Exupéry, je vais dire. Saint-Exupéry, je vais dire. Ben, faut que je réponde, hein? Je vais dire Marseille.
On cherchait la ville de Lyon.
Lyon. Ah, c'est une...
ouais. Indira Gandhi.
Je vais dire Mumbai.
La ville de Delhi.
Ah, oh, Delhi, New Delhi, ça aurait été bon.
Et Charles de Gaulle pour la maîtrise.
Je vais y aller avec Paris. Yes, sir, Miller.
Tout à fait. Wow. Ben oui, mais là, écoute, j'ai fini sur un petit facile en dernier.
Hey, 6 sur 9 sur la peau des fesses, j'ai ma maîtrise, Francis.
Tu l'as eu, mon cher. Qui j'ai mis des petites faciles là-dedans et des dures quand même.
Ça m'a aidé, effectivement. Voilà. C'est beau travail. Ah.
Excellent. Et on termine la dernière question, le doctorat. Donc, une question à développement qu'on se permet. Donc, tu vas devoir répondre avec plus qu'un seul mot.
Oui.
Je voulais initialement faire une question sur la controverse qui entoure la validité des crédits carbone. Mais finalement, même les experts ne s'entendent pas tous là-dessus. C'était difficile d'y aller avec une question. Donc, tant pis, je suis allé avec autre chose.
Ceci dit, c'est bon de faire lancer l'idée que le voyage, c'est problématique au niveau environnemental.
Tout à fait.
J'ai lu dernièrement là-dessus pendant mes vacances. Puis, au niveau de l'empreinte carbone, un simple voyage, je pense que. Dans le meilleur des mondes, on pourrait avoir Toronto-Montréal comme trajet, je pense, qui pourrait nous aider seulement, là,
ah
si
oui.
Je ne me trompe pas. Ouais.
Ben, c'est ça. Je voulais quand même le noter, faire une question sur le tourisme de masse. Quoi que ce soit, finalement, bon, j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant là-dessus, assez à mon goût. Donc, je suis allé avec autre chose.
Ouais.
Okay. Je veux savoir, quel pays a choisi de changer son fuseau horaire de 2015 à 2018 et pour s'opposer à quoi exactement?
Oh my God, c'est une bonne question de doctorat. Un pays qui a changé son fuseau horaire de 2015 à 2018?
Oui.
Oh, c'est une bonne question, ça. De 2015 à 2018. Je vais dire, Francis, je vais laisser un petit peu de temps quand même pour y penser aux gens, mais je vais dire l'Ukraine parce que leur fuseau horaire de leur capitale était associé à celui de Moscou.
Bel essai, mais c'est faux.
Malheureusement, hein? Vous pouvez pas avoir un doctorat en voyage en échouant notre secondaire, là.
Alors, ironiquement, on refinit ce quiz-là sur le pays où on peut sans doute le moins voyager au monde, la Corée du Nord, pour une deuxième fois, qui a décidé en 2015 de retarder son heure de une demi-heure, donc pour marquer le 70e anniversaire de sa libération des Japonais.
Okay.
Parce qu'avant, il était sur le même fuseau donc, que la Corée du Sud, évidemment. Là, la péninsule de Corée était toute sa même heure. Mais donc, il y a eu une occupation japonaise entre 1910 et 1945. Il avait modifié l'heure à partir de ce temps-là. Bref, en gros, c'était pour s'opposer donc, aux méchants japonais, comme le dictateur le disait lui-même. Et en 2018, la Corée du Nord est revenue à la même heure que la Corée du Sud dans un geste dit de bonne volonté. Sauf que récemment, à fin 2023, il parlait encore une fois de retourner à son heure véritable, l'heure de Pyongyang.
Ouais.
Donc... Mais bref, tout ça est un peu compliqué là, quand même et très politique. Mais
très
pour
politique,
moi, il y en a qui vont snoozer puis arriver en retard à la job.
J'aime ça terminer le podcast sur un petit commentaire de snoozing. C'est pas pire pour tout ça. Merci beaucoup, Francis. C'est un plaisir de jouer ce quiz-là avec toi encore une fois.
Ben oui, mais on espère que vous avez eu un bon diplôme, même si c'était plus dur. Puis on s'en va se mettre la crème solaire.
Hey, à bientôt tout le monde!